Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Alléluia! J'aimerais tout simplement continuer la deuxième partie de ce que nous avons commencé à enseigner la dernière fois, qui était comment éviter les rapports sexuels avant le mariage. Vous vous rappelez de ça? Et oui, je suis bénie aujourd'hui de partager ça avec vous. Et je veux lire Jacques chapitre 1, à partir du verset 21. Jacques chapitre 1, à partir du verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu, ce qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voici ce que Jacques nous dit, et j'ai tout simplement lu de la version Parole Vivante, Transcription Dynamique du Nouveau Testament. Ok, c'est une Bible qui est très, 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 très profonde, et de la manière dont elle décrit les versets simples que nous ne comprenons pas, sont vraiment très intéressants. Alléluia. Et Dieu nous bénit. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en Jacques. Il dit, ne soyons pas ce genre de personnes-là qui prennent le temps de pouvoir lire la parole, écouter la parole, et puis oublier. Le pasteur Esther n'est pas là pour prêcher, et puis tu vas tout simplement dire, c'est un bon message. Et puis le mois prochain, tu vas forniquer, tu vas oublier complètement tout ce que tu auras entendu. La parole de Dieu est plantée en toi. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. Et tu sais ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Est-ce que tu as pris une décision? Surtout les sermons qui sont en train de se faire entendre. Est-ce que tu prends des résolutions? Est-ce que même tu as de quoi noter? Ne sois pas distrait par la foule. Parce que c'est toi que Dieu veut guérir, c'est toi que Dieu veut sauver, c'est toi que Dieu veut délivrer. Ton problème n'est pas le problème de quelqu'un. Ta faiblesse n'est pas la faiblesse de quelqu'un. Avant que je ne puisse donner le but du sujet, j'aimerais dire que cet enseignement-là n'est pas seulement pour les célibataires. C'est vrai, c'est un grand thème, mais en tant que personne mariée, nous tous, nous ne sommes pas à l'abri vis-à-vis du sexe. Et pour ceux qui ont de l'expérience, qui sont mariés, ils vont savoir que même étant marié, tu es plus tenté d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, autre que ton partenaire, que ce que tu le crois. Et quand même, quand tu étais, bien plus encore que quand tu étais célibataire. Donc, ne nous coupons pas chaque fois qu'on parle de « avant le mariage ». Mais soyons sages et puis appliquons ce que nous devons appliquer pour être sauvés. Alléluia. Les clés spirituelles pour éviter la fornication. La clé spirituelle pour éviter la fornication. Voici le sous-thème que je veux développer dans cette deuxième partie. Alléluia. La première des choses, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Si nous voulons éviter les rapports sexuels, que ce soit avant le mariage, que ce soit pendant le mariage avec un partenaire qui n'est pas le nôtre, la première des choses, c'est d'être honnête. Honnête avec qui? Honnête avec toi-même. Honnête avec toi-même. C'est le premier point, la première clé dont tu as besoin. Si tu as un problème et que tu as besoin d'aide, tu dois être ouvert à ce sujet. Le médecin ne peut pas t'aider à moins que tu ne t'ouvres et que tu ne lui dises c'est quoi le problème. Et comme ce que j'ai dit, ton problème diffère de ton voisin. Tout le monde va à l'hôpital, mais tout le monde n'a pas le même problème. Voici pourquoi dans le même hôpital, vous allez voir qu'il y a des gens qui s'occupent des femmes, il y a des gens qui s'occupent des enfants, il y a des pédiatres, il y a des gynécologues, il y a des généralistes, il y a des dentistes, il y a des ophtalmologues, il y a tout genre de personnes qualifiées pour nous aider. Et ça, ça dépend du problème que tu as. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous faisons quand nous venons dans la maison de Dieu? On ne s'identifie pas comme quelqu'un qui a un problème. On se ménage avec la foule et puis quand il y a un truc, tout le monde crie « Yeah, 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 oui, prêche pasteur, prêche pasteur !» Ne te laisse pas distraire par la foule parce que tu es malade. Et ta maladie n'est pas la maladie de l'autre. Peut-être que pour toi, elle est plus mortelle. Et pour l'autre, là, c'est seulement un truc superficiel. Le palud et puis le mal de tête, ça fait deux choses différentes. Est-ce qu'on comprend? C'est deux choses différentes. La clé pour sortir de ça, la clé pour éviter complètement de mal se comporter, c'est d'abord l'honnêteté. Être honnête avec toi-même. Et te dire que j'ai un problème ici. Le sexe, c'est mon problème. Est-ce qu'on comprend? Le sexe, c'est mon problème. On peut être en train de rire, mais nous tous, on n'a pas le même problème. Ça me rappelle l'histoire de ce frère-là qui est parti à l'église et puis, lui, à chaque fois quand le pasteur prêche, à la fin du culte, il vient et puis il dit au pasteur, « Vraiment, pasteur, vous avez prêché un bon message sur la puissance du Saint-Esprit. Ah, soyez béni, pasteur. Je pense que vous leur avez fait beaucoup de bien par la parole. » Il dit, « Je pense que vous leur avez fait, pas vous nous avez fait, vous leur avait fait beaucoup de bien par la parole. Vous avez vraiment touché leur cœur. C'est un message dont ils avaient vraiment besoin. » Et puis la prochaine fois, le pasteur essayait de modifier son message pour que le monsieur là se rende compte que, look, ce n'est pas seulement les autres, mais c'est aussi toi. À chaque fois, c'était comme ça. Le monsieur ne disait jamais, tu nous as bénis. Il disait, hein, tu les as bénis et tout ça. C'est comme si lui, il est assis là, mais le message, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et puis, un jour, il a plu. Et le monsieur est venu à l'église. Il n'y avait personne d'autre à part lui et le pasteur. Et quand il est arrivé à l'église, le pasteur a dit, « Bien, voici mon opportunité pour parler à ce frère-là. » Et le pasteur a prêché powerfully. Il a prêché puissamment. Il a prêché avec précision. Il a prêché avec vie, avec enthousiasme. Se disant qu'aujourd'hui, là, je vais toucher le monsieur, il n'y a rien à faire. Quand il a fini de prêcher, le frère s'est approché et puis il a dit, « Pasteur, c'était un message très puissant. Si seulement les gens étaient venus à l'église aujourd'hui, en fait, leur vie aurait été touchée. » Ah, le pasteur était découragé. Mais ça veut dire quoi? C'est quelle personne à qui on parle et puis on pense, mais il pense toujours que c'est les autres. Ce n'est pas les autres. Le message est pour toi. Le message est pour toi. J'ai posé une fois la question au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent partout à chaque fois? Et il m'a dit, c'est parce qu'il y a besoin de repentance, il y a besoin d'édification, il y a besoin de changement. Et puis il m'a dit encore une quatrième chose donc, que j'ai oubliée. Il m'a dit, l'homme a besoin de se repentir à chaque fois qu'il écoute un message. Il a besoin d'être édifié à chaque fois qu'il écoute un message. Il a besoin de changer, de prendre des décisions à chaque fois qu'il écoute un message. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui comme décision? La balle est dans ton camp. La première des choses, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu continues à pouvoir fermer les yeux, si ce qui te dérange, tu risques de ne pas être un bon chrétien. Et tu risques de ne pas plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux t'encourager aujourd'hui à ouvrir ton cœur, recevoir cette parole-là afin que tu sois changé. Sois honnête avec toi-même. Et dis-toi que, de la manière dont je suis un peu léger dans mes mouvements-là, c'est quelque chose de récurrent. Je pense que le sexe est une faiblesse pour moi. Si tu reconnais cela, tu vas en parler et tu vas demander de l'aide. Et c'est pour t'aider que je suis là aujourd'hui. Et je te dis que la première des choses, si tu veux vraiment être aidé, c'est d'abord être honnête avec toi. Et reconnaître que ta vie sexuelle là n'est pas au top, comme il se doit. Tu tournes un peu ici, tu passes un peu ici, et c'est valable pour les personnes mariées. Tes yeux sont partout, Il suffit seulement d'une petite occasion pour que tu te jettes à l'eau. Il y a un problème avec le sexe. Et il faut que tu sois vrai avec toi-même pour te dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Le sexe là me fatigue. C'est vrai, pasteur Esther, il est caché, mais vraiment, les dégâts qu'il cause là, ce n'est pas de la blague. Je veux de l'aide. Parle. Ne reste pas là en train de rire avec les frères dans l'église. Pourtant, tu sais que la fille là, vous avez des choses pas bien ensemble. Pourtant, tu sais que le frère là, vous avez des conversations pas bien ensemble. Vous vous cachez pour faire des bêtises. Ne te tais pas là-dessus. Sois honnête et dis-toi en toi-même qu'il est temps que je puisse chercher à sortir de là. Mais vous savez, la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas honnêtes, c'est parce qu'en fait, ils chérissent le péché. Beaucoup chérissent le péché. On arrive dans le Seigneur, c'est vrai. On sait le Seigneur, c'est vrai. Mais il y a des choses secrètes en nous-mêmes que nous aimons, que nous chérissons, qu'on ne veut pas laisser partir. Et pour quelqu'un qui a eu déjà des rapports sexuels, le sexe est probablement un problème pour lui ou bien pour elle. L'honnêteté est la clé qui va te délivrer de la fornication et de toute autre chose qui te dérange dans la vie. Est-ce qu'on comprend? De toute autre chose qui te dérange, l'honnêteté. Es-tu honnête avec toi-même? Est-ce que tu parles de ce qui te dérange? Ou bien même quand tu vas parler de ce qui te dérange, tu parles seulement des choses superficielles. Il faut que tu aies quelqu'un à qui tu parles sans avoir honte. Tu sais pourquoi? Parce que Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit que je suis venu pour ceux qui sont malades et pas pour ceux qui sont bien portants. Toi et moi, nous ne sommes pas bien portants. Voici pourquoi nous avons besoin de Jésus. Et pour que Jésus-Christ puisse nous visiter et nous aider, il faut qu'on soit honnête et à dire ce qui ne va pas vraiment. Alléluia. Si tu sais que ton problème c'est le sexe, ne dis pas, ah, pasteur Esther, je vole de temps en temps. Il y a une différence entre voler et puis être faible sexuellement. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu nous aide. Donc la première clé spirituelle pour éviter la fornication, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Alléluia. La deuxième des clés, est-ce que quelqu'un veut savoir la deuxième des clés? C'est quoi? C'est la prière. Luc chapitre 22, verset 46. La Bible nous dit, « Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La prière est très importante. Et pourquoi? Parce qu'elle nous empêche de tomber dans la tentation. La prière nous fortifie contre tout ce qui se met en travers de notre route. Est-ce que tu savais ça? La prochaine fois, je vais t'encourager, la prochaine fois que tu jeûnes, lève-toi très tôt le matin et prie avant que le jour ne se lève. Tu vas trouver la force surnaturelle pour pouvoir continuer. Et cette force surnaturelle-là vient tout simplement de la prière. Quand tu pries, tu construis ton esprit et tu deviens spirituellement fort. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous devons développer une vie de prière solide. Je dis bien solide, pas faible. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles devant le sexe parce que nous ne sommes pas forts spirituellement. Et comment est-ce que tu vas être fort spirituellement si tu ne pries pas? Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant une heure de temps. Beaucoup pour eux prier une heure de temps, c'est trop. Ils aiment faire la prière du paresseux, 5 minutes, et puis ils avancent. Et le prétexte qu'ils trouvent, c'est que quoi? Dieu sait tout. Il sait tout de moi, donc pourquoi est-ce que je vais prier pendant longtemps? C'est une erreur. C'est une erreur. Développe une bonne vie de prière et tous les jours, prie au moins une heure de temps. Ça va te fortifier toi-même. Ça va t'aider toi-même. La prière, c'est comme une protection autour de toi. Ça te donne une certaine force intérieure, une certaine force morale, un certain courage de dire non devant le péché. Le maître Jésus nous a donné l'exemple. Oh, je me rappelle un peu quand le Christ est parti au désert pour prier. Après qu'il fut baptisé, la Bible nous dit que l'Esprit Saint le conduisit au désert où il partit passer 40 jours et 40 nuits. Devinez ce qu'il faisait, il priait. Comment est-ce que toi tu vas dire tu es chrétien Tu es petit Christ. Et puis tu ne pries pas. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et tu es surpris que tu tombes toujours dans le péché. C'est toujours toi qui fais les mêmes choses encore et encore. Personne ne va prier à ta place, bien-aimé. Il faut que tu puisses ouvrir ta bouche et parler à Dieu de ce qui te dérange. Lui parler toi-même et apprendre à développer une relation avec Dieu. Quand Christ est parti au désert et qu'il a prié pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu le tenter. Mais il n'a pas pu le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il était fort spirituellement. Et la Bible nous dit que le diable s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Est-ce que nous comprenons? Tu ne fais que dormir. Tu dors jusqu'à te réveiller à 10 heures. Bien-aimé, tu vas où avec cette vie-là? Sous prétexte que, oh, pasteur Esther, je ne vais pas, je pars pas à l'école. Pasteur Esther, je ne pars pas au travail. Pasteur Esther, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Moi, je me rappelle tous les cœur à cœur que j'ai eu avec le Seigneur. Personne ne m'enseignait de me réveiller tôt le matin pour prier. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, je me réveillais tôt le matin pour prier. Avant que la maison ne se réveille, j'étais déjà debout. Je partais me mettre dans un endroit calme. Et puis je priais. Tout ce que je fais aujourd'hui, Dieu a mis ça dans mon cœur et il m'a parlé des choses indiquées, une à une, de tout ce qu'il veut que je fasse, tout ce qu'il veut m'utiliser pour faire. Imaginez que je passais mon temps à dormir. Imaginez que je passais mon temps à pouvoir à me comparer aux autres. Je n'allais jamais pouvoir entendre la voix de Dieu et développer une vie de prière forte. Développe une vie de prière, bien-aimé. Et arrête un peu de jouer au bébé spirituel pendant longtemps. On peut tolérer un jour, deux jours. Mais ça ne peut pas continuer. Tu es vulnérable quand tu ne pries pas. Quelqu'un qui est vulnérable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à poids, qui est livré, qui a une poids facile. Pourquoi veux-tu être une poids facile à l'ennemi? Est-ce que tu ne vois pas que tu perds du terrain à chaque fois que tu ne pries pas? Pourquoi veux-tu être une poids facile à l'ennemi? Après, tu vas te dire, hein, il y a beaucoup de choses dans ma famille. Pasteur Esther, il me poursuit sa main, il me poursuit. C'est quand est-ce que tu vas te lever pour les poursuivre aussi? C'est toujours toi qui fais les cauchemars. Pourquoi ne pas te lever pour que le diable fasse des cauchemars aussi sur toi? Tout dépend de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est parce que tu n'as pas encore activé par la prière celui qui est en toi. Il est là. Mais il est endormi parce que tu ne veux pas t'aligner aux critères spirituels pour pouvoir être fort. Et si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas non seulement braver les difficultés de cette vie-là et tu ne pourras pas avoir le dessus pour dire non quand il faut dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais alors que tu te disciplines et que tu pries continuellement, constamment, bien-aimé, tu seras surpris. Que non seulement tu ne vas plus être accro à ce qui te fatiguait avant, tu ne vas plus faire les choses que tu faisais avant, mais tu vas avoir la force de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être sobre moralement, physiquement, mentalement, pour pouvoir décider de bonnes choses. Il est temps, bien-aimé, que toi et moi, nous nous disciplinions pour avoir une vie de prière solide. Une vie de prière solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie pour toi-même. Prie pour ce qui te dérange. Aie une vie de prière. Parle en langue. Intercède. Même si tu vas parler des mêmes choses encore et encore devant le Seigneur, il n'est pas fatigué de t'entendre. Prie. Bats-toi dans la prière. Lève-toi le matin pour prier. Prie à midi. Prie l'après-midi. Prie dans la nuit. Prie. Ne te tais pas. Ne passe pas ton temps à manger et devant la télévision. Ça ne va pas t'aider. Ceux qui vivent beaucoup dans la chair, hein, je vous dis qu'ils succombent facilement au péché de la fornication. Ils succombent facilement. Et je te dis toutes ces clés. Je te donne toutes ces clés. Je t'avertis avec toutes ces clés. Je t'équipe avec toutes ces clés spirituelles-là. Afin que tu puisses te lever. Et que tu arrêtes de te voir comme un enfant. Et que tu commences à te voir comme un guerrier qui puis tout par Christ qui le fortifie. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Et je déclare au nom de Jésus que tu fais des exploits par la prière au nom de Jésus.
Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière-là après moi. Dis Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse.
Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Alléluia, j'espère que vous êtes bénis par ce que vous entendez aujourd'hui. Et je sais qu'alors que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de recevoir la force de pouvoir prendre sa vie de prière au sérieux, la force de pouvoir prendre sa vie de méditation de la parole de Dieu au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La troisième clé, c'est quoi? C'est la délivrance. Certains cas de fornication nécessitent la délivrance, qu'on le veuille ou pas. Je dis bien certains cas. Si vous êtes toujours infidèle à votre époux ou à votre épouse, vous avez besoin d'être délivré. Si vous partez toujours de partenaire en partenaire, tu as besoin d'être délivré. Certaines personnes, surtout les fornicateurs chroniques, ils ont besoin de rencontrer un serviteur de Dieu loin pour subir une délivrance, pour chasser les mauvais esprits là. Amen. Si tu as un problème chronique, alors tu as besoin de délivrance. C'est quoi un problème chronique? C'est la même chose qui se répète encore et encore, encore et encore. Et si quelque chose te pousse à forniquer, ce n'est certainement pas Dieu qui t'anime. Et pose-toi la question, si ce n'est pas Dieu qui m'anime, mais c'est qui? Est-ce que tu as déjà posé la question, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu qui me pousse à forniquer, donc c'est qui? Ça ne peut être que le diable. Amen. La Bible nous dit en Jacques chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'à 15, que personne en présence de la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à commettre le mal. Non, Dieu ne tente personne. Voilà pourquoi ce qui se passe lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, verset 15, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Alléluia. Verset 16. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal, au contraire. C'est seulement le diable qui pousse les gens. Dieu ne pousse pas les gens. Dieu ne te pousse pas à commettre l'adultère, à commettre la fornication. Mais lorsque tu as besoin d'être sauvé, Dieu ne va même lorsque tu as besoin d'être sauvé, Dieu ne va pas te forcer à être sauvé. Est-ce que tu comprends? Je crois que ce que toi et moi nous devons faire, c'est d'être assez humble pour admettre que nous avons besoin de délivrance et demander à quelqu'un. Si tu n'as pas fait ton auto-délivrance, demande à quelqu'un de t'aider dans la prière. Alléluia. Et de venir t'imposer les mains pour chasser les démons. Parce qu'à chaque fois que tu vas avec quelqu'un, tu prends des démons. Et la personne également prend les dépôts démoniaques qui sont en toi. Il n'y a pas de transfert de bénédiction. C'est pas que, non, je vais aller coucher avec telle personne et puis son don, il va me donner son don. Ça n'existe pas. C'est les démons plutôt qui sont transmis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est les démons qui sont transmis. Ce n'est pas le don de la personne qui est transmis. C'est comme si, non, si je couche avec telle personne, nom de parole de connaissance, je veux aussi avoir ça. Non, il ne faut même pas te tromper. C'est les démons qui sont communiqués. Ce ne sont pas les bonnes choses qui sont communiquées. Donc, toutes les fois que tu vas avec quelqu'un, il y a des démons que tu prends. Tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. C'est des démons. Et nous tous, nous savons que les démons ne sont pas écrits sur le visage des gens. Alléluia. Et je veux te dire aujourd'hui que si le problème de la fornication est récurrente, tu as besoin de délivrance. C'est aussi simple que ça. Tu n'arrives pas à te contrôler. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu fais encore et encore, tu as besoin de délivrance. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Et toi, une jeune fille, c'est toi qui cours après les garçons. C'est toi qui les drague. C'est toi qui leur envoie des textos. C'est toi qui leur montre les parties de ton corps à travers WhatsApp et tout ça là. Et tu penses que tu vas simplement comme ça sans démons. Il y a les démons qui sont derrière. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Les frères, ne m'écoutez pas pour rire. Oh. Ce que je dis là, c'est la vérité. Il y a des sœurs de l'église qui sont spécialisées, envoyées par Satan pour faire tomber les gens. Pour faire tomber le pasteur, pour faire tomber, comment on appelle ça, les frères de l'église qui se gardent. Spirituel, quand tu es pur spirituellement, ça se sent. Tout comme quand tu es impur, ça se sent aussi spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens qui sont spécialement envoyés à une sœur de l'église. Je me rappelle très bien cette histoire-là, vraie. Elle est restée à l'église pendant 5 ans. Elle fait tout. Sert ici. Unique ici. Fait beaucoup de choses. Sert ici. Donc, le pasteur a commencé à l'aimer. Et puis, ils ont couché ensemble. Quand il a fini de coucher avec elle, vous savez ce qu'elle lui a dit? J'ai attendu ça pendant 5 ans. J'ai rêvé de ce moment. J'ai attendu ça pendant 5 ans. Elle a été patiente pour pouvoir atteindre sa cible. Et laisse-moi te dire, hein, le diable est patient. Je me rappelle encore de ce frère-là qui parlait constamment avec moi. Et puis, il me disait combien de fois il avait des attouchements avec une sœur et ça le dérangeait et tout ça. Et puis, il a dit, pasteur Esther, je vais changer de maison et je ne vais pas lui dire parce que la fille arrivait constamment là où il était. Je vais changer de maison. La fille faisait tout. Et puis, il a finalement déménagé. Donc, quand il a déménagé, il m'a dit, pasteur Esther, j'ai déménagé. Et je lui ai dit, ne dis pas à la fille là où est-ce que tu te trouves. Ne lui dis pas. Et puis dans la causerie, il est resté en contact avec la fille, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'il parlait, la fille lui a demandé, mais je suis partie là où tu étais là. Et on m'a dit que tu as déménagé, comment est-ce que tu as déménagé? Tu ne m'as pas dit et tout ça là. Et puis il est venu, il a dit, pasteur Esther, elle a su que j'ai déménagé, je fais quoi? Et je lui ai dit, parce que dans nos causeries, il me faisait comprendre que la sœur a dit non, que comme les deux n'arrivent pas à se maîtriser, là, qu'ils n'ont qu'à être juste des amis, elle ne veut pas qu'ils puissent s'arrêter comme ça, ils n'ont qu'à être des amis parce qu'elle est convaincue que c'est lui qui est son mari, tu vois, une femme. Oh. Et que Dieu l'a convaincue que c'est vraiment lui et tout cela. Vous avez vu, les femmes, oh, vous pensez que c'est vous les hommes seulement, les femmes aussi sont dedans. Et elles sont pires quand elles ont quelqu'un en ligne, un frère dans le collimateur, pauvre frère, si vous ne tenez pas dans la foi. Elle va faire tout pour vous faire tomber. Et rien que pour prendre la grâce de Dieu qui est sur vous. Et j'ai dit une vérité à ce frère-là. Je lui ai dit, regarde, le diable a tout simplement changé de tactique. Mais son but est le même. Si tu veux tomber, si tu veux perdre la grâce de Dieu qui est sur ta vie, laisse cette sœur-là connaître chez toi. Elle a tout simplement changé de tactique. Elle a tout simplement dit, oh, soyons maintenant des amis. Et beaucoup de personnes, au lieu de rompre proprement, ils s'arrêtent au fait d'être des amis. Non, pasteur Esther, il dit qu'il ne va plus me toucher. Il dit qu'il ne va plus m'embrasser. Mais on reste des amis. J'ai enseigné longuement sur ce que c'est qu'un ami. Dans toutes les qualités d'amis que j'ai dit, je n'ai jamais dit que ton ami est quelqu'un qui t'embrasse. Il y a une différence entre un amant. Il y a une différence entre un copain mondain et puis un ami véritable. Il ne faut pas confondre les choses. On ne couche pas avec son ami. On ne voit pas les dessous de son ami. On ne souille pas son ami. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide à aller de l'avant. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide à être fort. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait, qui t'aide à être souillé à chaque fois. Non, ce n'est pas ça un ami. Donc, il faut bien définir ta relation. Alléluia. Donc, je parlais de quoi? Délivrance. Que Dieu ne nous pousse pas à pécher. Donc, faisons attention. Toutes les fois où nous sommes tentés, nous devons être délivrés. Parce que les choses se répètent encore et encore. Encore et encore. Et une chose qui se répète encore et encore, c'est dire qu'il y a un homme fort derrière. Et tu as besoin, si tu veux être libre, de chasser l'homme fort qui est derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de chasser l'homme fort qui est derrière. Le démon qui est derrière. La quatrième clé que je veux donner. La clé, c'est quoi? Ça ouvre les portes. Ok? Et une clé qui ouvre les portes à la vie de sainteté, c'est le mariage. Le mariage tôt. Est-ce qu'on comprend? Et je viens encourager quelqu'un à se marier tôt. Plus tu retardes ton mariage, plus tu es susceptible de tomber dans le péché. Et je viens te poser une question. Tu attends quoi pour te marier? Si tu vas encore à l'école, ok. Donc, attends. Mais si tu ne vas pas à l'école, tu travailles. Tu attends quoi? Donc, je viens encourager quelqu'un à ne pas attendre d'avoir une voiture, une moto, un vélo, une maison, avant de pouvoir se marier. Si tu acquiers tout ça, et puis maintenant tu invites la femme, comment tu vas savoir si elle t'aime pour ce que tu es ou bien si elle t'aime pour ce que tu as? La Bible nous dit, en Proverbes chapitre 5, verset 18, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Il y a des gens qui veulent d'abord avoir tout avant de se marier. Donc, le temps qu'ils aient tout aussi là, ils ont 52 ans. Et c'est maintenant 52 ans, là, que je suis de 26 ans pour marier. On est où? C'est mieux de te marier quand tu n'as pas grand-chose. Comme ça, tu sais si la femme t'aime pour toi-même ou bien si elle t'aime, amène pour quelque chose d'autre. Tu sauras. Jouis de la femme de ta jeunesse. Profites-en. Sois béni avec elle. C'est ensemble que Dieu va vous bénir. Vous commencez avec rien. Mais au fur et à mesure que vous bâtissez votre vie et que vous faites confiance au Seigneur, Dieu va vous bénir. Il y a des gens maintenant, je vais m'arrêter pour parler pendant quelques secondes de ça. Il y a des gens qui investissent 3 millions, 5 millions dans les mariages. Et après, vous mangez quoi? Vous croulez sous le poids des dettes. Et il y a des gens qui veulent se marier, mais parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour s'habiller en raffia, pour louer la salle à 2 millions, pour faire tellement de choses exorbitantes. Et les gens, là, quand ils viennent manger, là, ils viennent, ils mangent à votre mariage et puis ils s'en vont. Les dettes, c'est sur votre tête. Pourquoi ne pas être sage et faire avec le peu que vous avez? Même si vous n'avez pas l'argent pour la réception, demandez, il y a forcément quelqu'un qui sait faire, je ne sais pas, des petits gâteaux autour de vous. Mais les choses simples, là, mettez ça dans des paquets bien emballés et puis donnez ça à vos invités. Et puis avancez. Mais il y a des gens qui se marient à midi, le soir, ils doivent faire la soirée. Et tout ça, c'est des dépenses. Et à cause de certaines dépenses, toutes ces dépenses, les gens ne peuvent pas se marier. Donc, ils attendent. Et dans l'attente, là, vous forniquez. Pourquoi ne pas être sage? Moi, j'ai rencontré dans l'exercice de mon ministère, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas voulu se marier. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et quand ils sont arrivés à l'église, j'ai demandé, mais vous de là, vous vivez ensemble, mais pourquoi vous n'êtes pas mariés? Ils disent, oh, pasteur Esther, on n'a pas d'argent. Et puis j'ai dit, ah, vous avez besoin de combien de millions pour vous marier? Et c'est comme ça que je les ai encouragés à pouvoir rentrer à l'école de mariés. Et puis, pendant ce temps, on a préparé le mariage. Mais je vous assure qu'avec vraiment une petite somme, eux se sont dit que non, on va se marier et puis il n'y aura personne qui va. La réception et tout ça. Je dis que ce n'est pas un problème. Nous sommes une famille. On va s'occuper de ça. Et dans mon zèle, j'ai délégué toute l'église. J'ai dit un groupe, vous achetez tel nombre de boissons. Vous achetez un peu d'eau. J'ai partagé la charge. Quand ils ont fini de se marier, la femme se disait, oh, est-ce que ma robe sera. J'ai dit non, ne t'inquiète même pas. J'ai appelé un couturier, j'ai dit, prends-lui les mesures, prends ces jeunes, des trucs simples. Ils se sont mariés. Ils se posaient la question, mais où est-ce qu'on allait faire la réception? J'ai dit, on a une église où on prie. J'ai fait décorer l'église simplement avec quelques ballons. On a mis les tables. On a mis les nappes de table dessus. Et puis, après l'église, on a pris le taxi. Il n'y avait pas de voiture décorée. On a pris le taxi. Et puis, on est venu à l'église. C'est moi qui étais le MC. On a fait une petite cérémonie. C'était très bien. Toute l'église était là. Les gens étaient surpris. Les mariés étaient surpris parce qu'ils n'ont jamais pensé avoir ce genre de choses. On a tous porté la charge. On a acheté un petit gâteau. On a mis dessus « Joyeux mariage ». On a mis leur nom. Et puis, c'est fini. Aujourd'hui, je vous parle. Ils sont mariés. Ils sont très heureux. J'ai vu aussi un autre couple. Ils ne voulaient pas se marier parce qu'ils n'avaient rien. Je leur ai dit non, on peut faire un mariage à quatre. Et j'étais leur témoin. Le pasteur qui a officié le mariage, moi j'étais leur témoin, les deux, puis une ou deux personnes. On était dans un petit bureau. Et puis on a fait. À la fin, ils n'avaient pas d'argent pour faire une cérémonie. Je suis rentré quelque part, j'ai acheté des pizzas. Et puis j'ai dit, venez qu'on mange. On était là, monsieur, madame, avec quelques invités là. On a mangé la pizza avec le justice à la réception. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Le plus important, c'est de ne pas vivre dans le péché. Ils se sont mariés. Ça, c'est moi, c'est pour citer seulement le peu que je me souviens, que j'ai dans la tête aujourd'hui. Mais il y a des choses. Si tu veux vraiment ne pas vivre dans le péché, tu vas le faire. L'argent n'est pas du tout une raison pour laquelle tu vas te marier tard. Est-ce qu'on comprend? Il faut le faire. Il faut te marier et te marier tôt. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas important de pouvoir se cacher, vivre dans le péché. Non, marie-toi et marie-toi vite. Et jouis de ta femme. Parce que quand tu te maries jeune, il y a une certaine beauté qui est là. Et je suis contente parce que quand je vois maintenant les photos sur Facebook dans certains pays, les gens se marient de plus en plus jeunes. Mariez-vous jeune. Même si vous avez seulement un peu de gari pour manger avec un œuf, au moins vous savez qu'au moins c'est vous. Vous êtes marié, vous ne vivez pas dans le péché. Mariez-vous et mariez-vous jeune. Et faites tout ce que vous voulez faire là. Là-bas maintenant, avec la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'écoute pas les personnes qui disent qu'il faut d'abord que vous ayez des enfants. Il faut d'abord que vous viviez ensemble pour savoir si vous êtes compatibles avant de vous marier. Non, ça c'est pour les païens. Mais si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un sans être marié. Tu ne peux pas planifier avoir des enfants sans être marié, bien-aimé. Ce n'est pas une source de bénédiction si tu réfléchis comme ça. Marie-toi avant d'avoir des enfants. Marie-toi avant que vous ne puissiez vivre ensemble. Quelqu'un dit Amen. Marie-toi et marie-toi vite. Marie-toi et marie-toi bien. Ne te marie pas seulement à la coutume et puis maintenant vous vous asseyez. Est-ce qu'on comprend? Et puis après tu dis non, on va vivre ensemble et puis d'ici 5 ans, on va voir si tout va bien, on va se marier. Pourquoi d'ici 5 ans? Si vous avez commencé quelque chose, laissez Dieu vous bénir. Et en tant que chrétien, c'est la bénédiction de Dieu qui est importante. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu. Donc ne vivez pas seulement ensemble après le mariage coutumier et puis c'est tout. Mariez-vous et laissez un serviteur de Dieu ou un déclaré des bénédictions sur votre union. Quelqu'un dit Amen. Et je veux finir avec ce dernier point. Si tu veux éviter complètement les rapports sexuels avant de te marier, étant dans ton mariage avec un autre partenaire, tout simplement, tu dois prier pour la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Et beaucoup d'entre nous, quand nous prions, on ne prie pas pour la grâce de Dieu. On ne demande pas la grâce de Dieu. D'abord, on ne sait même pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Et on ne demande pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, quand tu pries pour la grâce de Dieu, tu demandes à Dieu de l'aide, son intervention, qu'il te facilite les choses. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Bien-aimé, Paul a pu dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quand nous lisons beaucoup les écrits de Paul, on peut voir qu'il a reconnu la grâce de Dieu et il a vu combien de fois la grâce de Dieu était importante. Si tu veux tenir devant le péché sexuel et devant tout autre péché, bien-aimé, c'est de demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de façon constante. La grâce, toutes les fois que tu te réveilles, la grâce devant chaque situation. Et si tu n'es pas ami de Dieu, comment est-ce que tu vas demander la grâce de Dieu? Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne prends pas à la légère. C'est le sujet le plus important pour toi, à part la volonté parfaite de Dieu. Et tu te poses la question, mais pasteur Esther, je ne sais pas comment prier. S'il y a deux choses pour lesquelles tu dois prier, bien-aimé, c'est de prier pour la volonté parfaite de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Et puis deuxièmement, c'est de prier pour la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, toi et moi, on ne peut pas tenir, on ne peut pas avancer. Le monde est ténébreux. Et quand nous demandons la grâce de Dieu, Dieu trouve le moyen de pouvoir faire glisser sa main dans tout ce que nous faisons. Pour nous épargner du danger, de nous aider quand nous sommes faibles, de nous soutenir et de nous relever quand nous tombons, de nous épauler quand nous ne savons plus où mettre la tête. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est un sujet que tu ne dois pas négliger. Tu dois prier pour la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Et tu dois te dire en toi-même que sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Et je ne peux rien. Si le grand apôtre Paul a pu reconnaître la grâce de Dieu, qu'en est-il de toi et de moi? Oh, je me rappelle encore quand Paul avait son écharde dans la chair. La Bible nous dit qu'il a supplié Dieu pour que cette écharde-là lui soit enlevée. Mais Christ lui a dit, ma grâce te suffit. Et je viens te dire aujourd'hui, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Si seulement tu sais te tourner vers Dieu, la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Je veux finir en te disant que toi et moi, nous ne pourrons pas tenir si nous ne comptons pas sur la grâce de Dieu. Je veux t'inviter à prier avec moi maintenant. Prenons quelques secondes et demandons au Seigneur sa grâce afin de pouvoir vivre une vie glorieuse, afin de pouvoir vivre une vie saine, afin de pouvoir vivre une vie sainte, afin de pouvoir vivre une vie qui lui est agréable. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci et humblement en union avec mon frère et ma sœur, je viens prier et te demander la grâce, Seigneur. Répands ta grâce sur chacune de nos vies. La grâce, Seigneur, de tenir, parce que c'est toi qui nous demandes de vivre une vie pure. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de pouvoir nous abstenir, la grâce de pouvoir être fidèle, la grâce de pouvoir être, Seigneur, ces personnes-là qui te sont agréables, nous demandons ton intervention aujourd'hui, Seigneur. Viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, viens et établis ton règne, viens et établis, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. J'aimerais que nous puissions prier maintenant et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné, pour les 5 clés qu'il nous a données. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour les clés spirituelles que tu nous as données aujourd'hui pour pouvoir éviter de nous souiller, pour pouvoir éviter de prendre des démons. Seigneur, merci pour l'esprit d'honnêteté que tu répands dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir être délivré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout mauvais esprit. Seigneur, merci pour la grâce de pouvoir être ces personnes-là qui cherchent ta grâce, ces personnes-là qui se marient tôt. Seigneur, nous prions, donne-nous une vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répands dans nos cœurs l'esprit de prière et de supplication afin que nous ne soyons pas des chrétiens lourds, afin que nous ne soyons pas des chrétiens qui vivent dans la chair, mais que nous puissions vivre par l'esprit et marcher par l'esprit. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être fortifié dans l'être intérieur à travers ce que tu nous dis. Seigneur, garde-nous et préserve-nous. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des personnes qui viennent déguisées en amis, mais qui au fond pour mission de nous faire tomber. Je prie, Dieu véritable, que ta main puisse nous établir dans les hauts lieux, dans les lieux que tu as préparés pour nous. Seigneur, bénis nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer purement pour non seulement ta rencontre, mais pour la personne que tu as réservée pour nous. Seigneur, je prie pour que tu relâches la présence de tes anges dans chacune de nos vies. Nous prions, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse nous convaincre à choisir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon devant toi et ce qui est bon en toi. Seigneur, merci pour ta main, merci pour ta grâce Merci pour ta puissance. Merci pour la présence des anges. Merci pour la compréhension et pour le cœur sensible à ta parole que tu nous donnes. Seigneur, merci. Parce que nous croyons qu'alors que tu nous enseignes, nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole pour nous guérir. Merci pour les cœurs qui reçoivent la guérison maintenant. Merci pour les cœurs qui acceptent de se pardonner pour la vie passée qu'elles ont menée. Et qui acceptent la vie de sainteté que tu donnes. Seigneur, merci parce que ta main intervient. Merci parce que ta parole nous transforme. Merci parce que tu nous emmènes à une autre dimension avec toi. Seigneur, que ta main nous protège, que ta main nous garde. Délivre-nous des hommes pervers, délivre-nous des femmes perverses. Délivre-nous, Seigneur, des méchantes personnes. Délivre-nous, Seigneur, de tomber dans les plans de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, que ta grâce se répande sur chacun d'entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Merci parce que toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui ne continueront pas à vivre dans le péché, mais elles reçoivent la force maintenant de pouvoir se lever et de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu es et tu fais. Bénis nos vies et aide-nous à aller de l'avant. Nous déclarons au nom de Jésus. Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse.